Dans le cadre du 47e festival du film de Carlo Vivari, était organisée une grande rétrospective du cinéaste français Jean-Pierre Melville, dont on dit qu'il est le père spirituel de la nouvelle vague. Olivier Bowler est un jeune réalisateur passionné par le cinéma de Melville. Il a réalisé un documentaire sur ce dernier, sous le nom de Melville, et son nom, et a accepté de répondre aux questions d'Anna Kubishta dans la suite et fin de cet entretien. Il est d'abord revenu sur les cinéastes qui ont inspiré Jean-Pierre Melville.
Culture sans frontières.
Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire, parce qu'il a fait une liste, c'était un obsessionnel des listes, Melville a fait une liste des 63 cinéastes américains d'avant-guerre, donc qui étaient ceux qui l'ont formé. Donc dedans, il y a Clarence Brown, il n'y a pas Cécile B2000 parce qu'il ne supportait pas Cécile B2000, il n'y a pas Chaplin parce que c'est le dieu vivant, celui-là, il est hors course. Mais il y a tout le cinéma d'avant-guerre. Donc on s'est beaucoup basé sur cette liste-là pour dire, les origines de Melville, elles sont là. Alors, c'est trompeur à plusieurs niveaux parce que on voit bien qu'en fait, il aurait très bien pu faire une liste des 63 contemporains. Et il avait imaginé la faire et puis il a pas fait faute de temps ou faute de voilà. Et que quand on regarde L'Armée des Ombres ou Le Doulos, les références sont des films qui sont des films américains beaucoup plus récents. Par exemple, La Sauvage Jungle. Et ça, c'est pas cité dans sa liste des 63. Houston ne fait pas encore partie de sa liste des 63, si je me trompe pas. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut prendre des références qui sont celles souvent pour ces films, en fait, de l'après-guerre. Et là, il y a des décalques entiers de scènes. Il retourne des plans quasiment à l'identique. Mais sa formation de cinéphile, effectivement, il l'a faite en allant 4-5 fois par jour au cinéma, en commençant à 10h du matin, en finissant à minuit. De l'âge de 8 ans à l'âge de... quand est-ce qu'il est rentré dans l'armée? Très tôt, hein. Il est rentré dans l'armée en 36, à l'âge de 20 ans. Voilà, c'est vrai que c'est le cinéma qui l'a formé. Mais il y a clairement deux parties, et je pense que ce qui est puissant aussi chez Melville, c'est que il tire une partie de son essence, non pas du polar, de ce qu'on appelle nous le polar souvent, ou de la série noire, dans le sens où c'est Humphrey Bogart, L'Imperméable, etc. Alors évidemment, L'Imperméable, c'est trompeur, il est sur le dos d'Alain Delon tout le temps, mais cet Imperméable, il est déjà sur le dos d'Alan Ladd dans les années 30 ou au tout début des années 40. Il est déjà cette iconographie, elle est déjà constituée dans le film de gangster. Il prend beaucoup chez James Cagney dans les films des années 30. Donc on pourrait dire qu'il est à la fois influencé par les tout premiers films de gangster, ceux de 1929, 1930, 1932, voilà, ces tout premiers là, et puis l'après-guerre, les années 46, 47, 55.
Alors, comme on a parlé des influences que lui a eues du cinéma américain, quelle est sa postérité à lui? Est-ce que des cinéastes se sont inspirés de Melville, ou en tout cas, est-ce qu'elle est fan justement de Melville, hein?
Alors, je rajouterais juste une petite chose. Melville connaissait remarquablement bien l'ensemble du cinéma. Et dans ses influences, le cinéma japonais, par exemple, est loin d'être absent. Il a vu Mizoguchi, il aime ça, clairement. Donc là aussi, il y a... ou les samouraïs, évidemment, enfin, ce genre de choses. Kurosawa, c'est flagrant qu'il y a des parentés. Sinon, pour les cinéastes que lui a influencés, on doit quand même, il faut le reconnaître, à Tarantino, d'avoir avec Reservoir Dogs et ses grandes tirades et ses grandes dédicaces, rendu un hommage à Melville formidable, qui nous a permis à nous en France de redécouvrir, de refaire un peu le parcours et de dire on a peut-être oublié quelque chose que les Américains sont en train de redécouvrir, et nous on a du retard par rapport à ça.
C'est paradoxal, on redécouvre finalement Melville par le biais des États-Unis. Ouais.
Par le biais des États-Unis qui lui l'ont conduit au cinéma. Donc effectivement, le jeu est celui-ci. Jim Jarmusch évidemment aussi, les deux, hein, Tarantino et Jarmusch avaient accepté d'être dans le film, et pour des questions de planning on n'a pas pu le faire. C'est un grand regret. Tarantino parce qu'il était en tournage, Jarmusch on avait un jour de calé, la veille il a été obligé d'annuler et il en était aussi désolé que nous, donc on peut dire il est là quelque part dans le film, en pensée en tout cas. Et par ailleurs, là aussi où c'est amusant par rapport à ce que je vous disais sur le fait que Melville avait été influencé par le cinéma japonais sûrement, c'est que les Asiatiques ont repris le flambeau, et donc évidemment John Woo, c'est le premier, qui à peu près en même temps que Tarantino a lui aussi payé des hommages, par exemple dans The Killer, qui est quasiment un remake de Samouraï, à Melville et John Ito qui est dans le film et qui lui aussi cite Melville régulièrement. Ou, et c'est plus étonnant et très intéressant, un cinéaste comme Kobayashi, Masahiro Kobayashi, qui est un cinéaste très, on va dire, très intellectuel, un auteur à la mode française, parce qu'il est très francophile. Et lui, les films qu'il cite, c'est pas nécessairement Le Samouraï ou les films d'action comme Le Deuxième Souffle, mais c'est L'Armée des Ombres, qui est même visuellement cité dans un de ses films, puisqu'un de ses personnages regarde une cassette vidéo de L'Armée des Ombres. Et là, c'est passionnant parce que c'est un autre versant de l'œuvre de Melville, pas seulement la veine polar, mais une veine plus, on va dire, plus tragique, plus intimiste.
Pourquoi dit-on que justement Melville est le père spirituel de la nouvelle vague, a priori comme ça spontanément, j'aurais pas dit qu'il est de la nouvelle vague.
Alors il l'est, donc il est très en avance, puisque si on compare, Le Silence de la Mer c'est 47, À bout de souffle c'est 59, donc il y a plus de 10 ans d'écart. Il l'est parce qu'il est d'abord le premier cinéaste, peut-être au monde, ne soyons pas prétentieux, en tout cas au moins français, le premier cinéaste à être formé par le cinéma. C'est-à-dire que sa seule formation, c'est les films qu'il a vus. Et il vient au cinéma en voulant soit refaire, soit proposer quelque chose de nouveau par rapport à ça. Comme il le dit très bien, quand Renoir ou Chaplin ont commencé, ils n'avaient pas de modèle. Il a fallu inventer le cinéma. Lui, il est le premier des cinéastes à ne pas inventer quelque chose du cinéma, mais à arriver avec déjà une culture toute constituée, dans laquelle il essaye de trouver sa place. Ce qui est typiquement la position de la nouvelle vague, qui elle sera formée par Langlois à la Cinémathèque. Ils voient des films et c'est ce qu'ils voient chez Langlois à la Cinémathèque qui leur donne envie de faire des films. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, comme vous le rappeliez avec beaucoup de justesse, il y a le fait que Melville en 47 tourne un film en dehors de toute production normée. C'est-à-dire, il n'a pas un producteur avec lui, il est le premier auteur-producteur, il fonde sa propre société de production pour pouvoir tourner, puisqu'à l'époque il fallait normalement, pour être réalisateur, avoir été assistant sur plusieurs films, avoir une carte d'assistant qui vous permettait ensuite de pouvoir éventuellement, voilà,
donc grosse machine.
Une grosse machine, et il fallait être vieux pour commencer à faire du cinéma, donc c'est un résumé rapide, mais c'est un petit peu ça. Donc là on a au contraire un cinéaste jeune qui sort de la guerre, qui a une énergie vitale débordante, qui a pas un franc devant lui, qui dit qu'il rentre tous les soirs de tournage en lavant sa chemise parce qu'il en a qu'une, pour pouvoir en avoir une propre le lendemain, et qui a qu'une envie, c'est de faire du cinéma. Donc il autoproduit totalement ce film, avec un petit peu d'argent familial, un petit peu d'argent gagné comme ci, comme ça, pas du tout avec l'argent de Nicole Stéphane, qui était l'actrice principale et qui était une Rothschild, comme on l'a rappelé ensuite très méchamment. Elle a jamais aidé à la production de ce film-là. Mais par contre, voilà, Melville est dans une position d'indépendant à ce moment-là. Et c'est ce que la nouvelle vague essaiera de refaire, de la même façon que tourner en décor naturel, parce qu'a priori ça coûte beaucoup moins cher, etc. Et ils ont à peu près, on va dire pour beaucoup d'entre eux, un parcours assez similaire, dans le sens où ils vont aussi apprendre que tourner Melville le premier et puis la nouvelle vague ensuite, tourner en extérieur, ça coûte parfois beaucoup plus cher que tourner en intérieur dans un studio, parce que quand le soleil s'en va au mauvais moment, il faut recommencer le lendemain, et vous avez gâché deux fois de la pellicule, alors que si vous l'aviez fait en studio, la prise était bonne dès le départ. Donc voilà, donc ils tireront souvent les mêmes leçons aussi.
Tout doucement pour terminer, son nom Melville, parce que c'est pas son nom d'origine, puisqu'il avait un autre nom de famille, Grumbach. Alors c'est évidemment un hommage à Melville, l'auteur de Moby Dick. Pourquoi cet hommage littéraire finalement chez ce cinéaste?
Alors ça dit beaucoup de choses de la grande culture de Melville déjà, et de l'importance du littéraire chez lui. C'est quand même extrêmement étonnant, sur 13 films qu'il a fait, il y en a plus de la moitié qui sont des adaptations, à commencer par effectivement Le Silence de la Mer, qui est son premier film, mais des chefs-d'œuvre comme Le Silence de la Mer, comme L'Armée des Ombres, évidemment aussi, et puis on va dire des romans plus faciles comme Le Deuxième Souffle ou ce genre de choses. Mais donc l'importance du littéraire chez lui, c'est quelqu'un qui avait une passion pour Aragon, qui était baigné dans la culture de son temps et même auparavant. Et puis évidemment la culture américaine, il le dit d'une manière assez amusante, il dit j'adorais Edgar Poe mais ça plaît Poe, c'est pas ce qui sonne le mieux en France, donc c'était pas possible. Et puis il restait Melville qui avait, et là aussi c'est toute ambiguïté, quand son modèle c'est le cinéma américain, mais il fait un cinéma qui est extrêmement français par ailleurs, extrêmement européen on va dire en tout cas. Bertrand Tavernier explique ça à merveille, quand Melville fait un plan qui est une reprise d'un plan de Robert Wise, il le fait durer un peu plus longtemps que le même plan chez Robert Wise. Du coup, ça devient un plan de Bresson, ça devient plus un plan de Wise, même si le cadrage est celui de Wise. Donc, on est toujours à cheval chez Melville entre les deux cultures, entre les États-Unis et l'Europe. Et ce qui est merveilleux chez Herman Melville, c'est que c'est un peu ça aussi, et que le nom même de Herman Melville est un nom qui sonne très français. Donc il a choisi le plus français des noms d'auteurs américains. Et on peut pas dire que la littérature d'Herman Melville soit une littérature empesée ou d'un classicisme 19e très lourd. C'est une littérature d'un modernisme extraordinaire. Et derrière des apparences de ah oui, c'est la grande histoire de la chasse à la baleine. Mais quand on lit vraiment Midi, qu'on se rend bien compte à quel point, d'un point de vue métaphysique, c'est extrêmement en avance sur son temps. C'est sûrement le premier très grand roman moderne. Donc, ça aussi, ça nous parle de l'œuvre de Melville, qui, derrière son classicisme, est une œuvre, justement, fondamentalement moderne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a cette importance-là. Donc, voilà, je pense que la parenté, elle est là. Et le modèle, il est là.